studio mobile de Timbre FM,
c'est le créneau dédié aux rediffusions,
de couverture d'événements,
festivals, marchés d'artisanat,
forums, etc.
Mené par Timbre FM,
avec ses équipes timbrées
et son studio mobile.
Et la plupart du temps,
ça se fait en direct et en public.
Le studio mobile de Timbre FM, ça bouge!
De retour à la fête des sciences avec donc nos invités, nos chroniqueurs, Armel, Séverine et Hervé à la technique et moi-même Jérémy. Nous recevons à présent Marc Lebouvier, un chercheur de recherche, ingénieur de recherche au CNRS. Voilà, bonjour monsieur Lebouvier.
Bonjour.
Merci d'être venu à notre table ronde. Du coup, votre thématique c'est l'écologie terrestre. Vous travaillez pour l'Institut Polaire Français, Paul-Émile Victor, et vous avez notamment développé des projets autour de, des écosystèmes terrestres subantarctiques et des questions des changements climatiques.
Absolument.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous anime dans cette mission ? Pourquoi vous êtes arrivé à cette...
Alors, c'est un peu conjoncturel. Il se trouve que moi, je travaille à la station de logique de Pimpon depuis 1983, quand je suis rentré au CNRS. Et il se trouve que l'ancien directeur de la station, M. Paul Tréhin, et un collègue maintenant en retraite, Yannick Delettre, ont fait une première mission dans les, à Kerguelen, donc dans les îles subantarctiques françaises, en 1974. Et depuis 1974, le labo, notre labo, a une activité en continu dans, ce, dans ces îles. Et donc, étant ici, j'ai d'abord travaillé sur les, de la problématique des incendies de landes autour de Pimpon. Et très rapidement, je me suis orienté vers ces recherches subantarctiques. Et j'ai commencé à faire des missions dans cette région du monde en 1987-88. Et puis ça a duré, voilà, les années passent et on continue.
Et du coup, il y a des relations entre votre sujet d'étude à Kerguelen et le réchauffement, enfin, et les applications, par exemple, chez nous ici ou...
Oui, alors ce qu'il faut voir, c'est que, bon, on va travailler dans ces îles, pas seulement pour le plaisir de la croisière. C'est une jolie croisière, hein, puisqu'on fait, on va sur un navire très sympa qui s'appelle le Marion Dufresne. Enfin, je précise, en termes de croisière, c'est quand même dans les 40e et 40e rugissant, 50e hurlant. Donc, si vous conservez votre petit déjeuner, ça va. Sinon, c'est un petit peu plus difficile. Non, plus sérieusement, ce qui nous intéresse dans ces territoires, c'est que ce sont des îles d'origine océanique. Donc, il n'y a jamais eu de contact avec les continents d'origine volcanique océanique. Elles sont éloignées parce qu'en gros, quand vous regardez l'océan Indien, ben c'est une grande plage bleue et il y a des petits points qu'on voit à peine et ça correspond à ces îles. Donc on a des communautés de plantes et d'invertébrés, puisque moi je travaille sur les plantes et les insectes en particulier, qui sont relativement pauvres. Pauvres en sens de peu diversifiés. Je dis souvent aux jeunes étudiants qu'on envoie travailler là-bas, qu'ils font le tour de l'étang et ils vont voir 10 fois plus de plantes qu'ils ne verront à Kerguelen et 10 fois plus d'insectes que ce qu'on verra. Et du coup, ce sont des systèmes insulaires qui marchent très très bien. Ça fonctionne très très bien, mais ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont très fragiles aux perturbations. Alors les perturbations, ça peut être l'introduction d'une espèce. Donc ce matin, je faisais un exposé ici, j'évoquais l'impact du lapin à Kerguelen, par exemple. J'évoquais l'impact du chat, qui tue des dizaines de milliers d'oiseaux chaque année, etc. Donc ce sont des systèmes qui marchent très très bien, mais qui se dérèglent rapidement. Comme il y a peu d'espèces, donc les réseaux sont assez simplifiés. Quand il y a un maillon qui saute, ça peut partir en vrille très vite. Alors c'est vrai par rapport aux espèces introduites, ce qui est une problématique pas spécifique, évidemment, au subantarctique, qu'on rencontre partout, en particulier dans les îles, mais maintenant, à l'échelle du globe, bon, ben, on connaît tous des exemples d'introduction d'espèces, le frelon asiatique, etc. Et donc, ça devient un problème très, très prégnant dans l'actualité, et on se trouve dans les îles subantarctiques dans des situations où ça réagit très très fort. Donc c'est l'intérêt. Et il en est de même pour le changement climatique.
Justement, en fait, pour vous, c'est en tant que chercheur, vous estimez que ça c'est un indicateur de santé de la planète, l'observation de la faune et de la flore sur cette île ? sur ces îles-là ?
Disons que ça donne des cas d'études qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes qui font que telle espèce peut amener des perturbations majeures ou pas. Qu'est-ce qui contribue ? Alors c'est une contribution très, très modeste de notre part, mais comme beaucoup de choses en science, enfin, il y a quelques prix Nobel et il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui au quotidien font un boulot souvent très spécialisé, qui apporte de la connaissance, qui apporte des éléments de compréhension du monde qui nous entoure. Et voilà. Et enfin, il faut savoir rester modeste dans ce qu'on fait. Moi, j'ai pour habitude de dire que voilà, chacun apporte une contribution, une petite brique à l'édifice global de la connaissance et de la compréhension.
C'est justement le pont, la passerelle qu'il y a avec ce type d'événement, comme aujourd'hui la Fête des Sciences, qui est un événement, on va dire, majeur, national, qui a cette vocation quand même d'aller vers le public, d'aller vers la population pour rendre accessible des savoirs que vous explorez depuis 20, 25 ans.
Absolument. Absolument. Pour ma part, je considère que ça fait partie de notre boulot. Moi, il se trouve, je suis ingénieur au Centre National de la Recherche Scientifique. J'ai des collègues universitaires, des collègues à l'INRA, etc. Pour moi, ça fait partie de notre boulot, ne serait-ce que pour casser une image qu'on a parfois. Moi, j'en ai toujours été surpris, mais un peu, on parle souvent du scientifique dans sa tour d'ivoire. Je trouve que ça ne s'applique pas vraiment. Et je cite toujours une anecdote. Justement, dans le cadre d'une fête de la science, il y a quelques années, j'étais invité au Muséum à Paris, à une émission animée par Marie-Odile Monchicourt. Et à la fin de mon exposé, il y a une dame qui est venue me voir, qui me dit « J'ai pas voulu intervenir, mais je voulais vous remercier parce que c'est quand même très sympa de vous entendre et de pouvoir discuter avec vous. » Là, je la regarde, je lui dis « Mais... oui, merci, mais moi, quand je vais acheter mon morceau de beefsteak ou ma baguette, je discute avec mon boucher, je discute avec ma boulangère. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que non, il n'y a pas les scientifiques dans un monde tout à fait à part. On fait, je dirais, un métier comme les autres. Bon, chaque métier a ses particularités. Et donc, du coup, pour casser ce type d'image... c'est bien, et puis voilà, de faire comprendre aux gens, d'expliquer un peu aux gens ce qu'on fait, qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de métiers où on se demande ce que... C'est l'avantage du boulanger, hein. Le boulanger, il sait ce qu'il fait, il fait du pain, et tous les jours il y a des gens qui mangent du pain, donc il y a moins de questions à se poser peut-être.
Il y a quelqu'un qu'il faudrait que vous rencontriez, c'est quelqu'un qui a dit, il n'y a pas très très longtemps, le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois, dans le but de rendre l'industrie américaine non compétitive. Est-ce que vous pensez que c'est peine perdue ?
J'ai une petite idée sur qui peut tenir ce genre de discours. En fait, ouais, il y a beaucoup d'intox hein, sur cette problématique. Il y a une réalité. Hein, Bon, là, j'ai pas eu le temps de le dire. Il vient de sortir le dernier rapport du GIEC. Il y a quand même. Et si on considère le GIEC, qui est quand même un organisme qui fédère des centaines de chercheurs, voilà, le discours est très prudent quand vous prenez le premier rapport, puis le second, etc. Bon, là, on a des faits. En fait, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, normalement, il n'y a pas de climato-sceptiques, de gens qui nient le changement climatique, sauf quelques-uns parfois haut placés. Le différent qui peut exister, y compris entre scientifiques, c'est sur l'origine du modification du climat. Le GIEC en particulier considère que c'est majoritairement dû aux émissions de CO2 liées aux activités humaines, et les arguments qu'il avance sont probants. D'autres privilégierait une réponse de type liée au mouvement des planètes, etc. Et je serais tenté de dire que ça ne change rien par rapport à... Alors, chacun son idée, hein, moi je serais plutôt côté GIEC. Mais en fait, ça ne change rien, parce que si on parle de ressources carbonées, ce que les gens ne comprennent pas ou ne comprennent pas toujours, c'est que nous vivons sur une planète finie. Mm-hmm. Hein, la planète, il y en a une. Et puis, que si, une fois qu'on aura brûlé tout le pétrole, ben, il faudra passer à autre chose. Et donc l'épuisement des ressources, c'est une réalité. Hein. En quelques décennies, ou un siècle ou deux, On a largement entamé un potentiel de ressources qui se sont accumulées pendant des centaines de milliers d'années. Donc à la limite, ça change même rien, quoi. Alors après, par rapport à la citation que vous faisiez, bon, bah là, à la limite, c'est pas sérieux, quoi.
Ça vous décourage pas ? C'est un petit peu difficile quand même pour vous qui avez dédié toute une carrière quelque part à la mise en valeur des événements climatiques, de ce que ça impacte concrètement dans la nature. Vous avez participé quand même à cette observation. Ça ne vous décourage pas ?
Non, parce que j'ai jamais pensé que j'allais changer le monde. J'ai parlé de modestie tout à l'heure. Non, mais je crois qu'un bon scientifique, c'est un scientifique modeste. C'est pas pour se dévaloriser, mais c'est juste situer les choses. Nous, on apporte des éléments. Là où on peut intervenir à différents niveaux, à travers des réunions comme la fête de la science, dans différents comités. Bon, il se trouve que moi, j'ai pu participer pendant quelques années dans la délégation française aux réunions du traité sur l'Antarctique, par exemple. Modestement, j'ai amené des éléments de discussion et j'ai apporté des informations. Et puis voilà. Après, les ressorts, notre responsabilité, c'est de donner l'information, et comme les gens ne sont pas, enfin j'entends les décideurs ne sont pas toujours très très réceptifs, c'est vrai qu'on a aussi un effort à faire pour communiquer, parce que ce qu'on entend depuis 3 jours, depuis la sortie du rapport du GIEC, c'est oui, bon, et maintenant. Et oui, et maintenant, ça vous concerne, ça nous concerne individuellement, mais on sait bien aussi qu'il y a des décisions politiques très importantes qui, là, nous échappent. Et effectivement, à cet égard-là, ça peut être frustrant, mais en tant que citoyen, pas en tant que scientifique. Ouais.
Et c'est peut-être là aussi la difficulté, d'ailleurs, enfin, qu'il peut y avoir entre, alors est-ce que c'est le terme, hein, philosophie et science, enfin, ou sociologie et science, tant soit peu, la sociologie n'en est pas une, mais parce que la difficulté, c'est parce que le GIEC, enfin le problème du réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc dans la communication qui est donnée, ça fait déjà plusieurs années qu'on dit, mais là il va être temps de faire quelque chose, sinon on s'en sortira pas. C'est ce qu'on dit il y a 20 ans, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Donc du coup, peut-être aussi que les gens, à force, fait 30 ans qu'on nous dit que ça va mal se passer.
On est toujours là.
Donc, est-ce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas un rapprochement qui pourrait être intéressant à faire ? Ça se fait sûrement, d'ailleurs. Hein, peut-être, moi, je ne suis pas une spécialiste, mais un rapprochement à faire entre les hommes et les femmes de la connaissance scientifique au sens dur du terme, et puis peut-être liées aux sciences de l'homme, quoi, ou sciences humaines. Je sais pas.
Oui. Ça se fait parce qu'effectivement, comment dire ? Il y a deux choses. Il faut avoir l'information. Donc, les scientifiques accumulent des connaissances. Leur boulot, c'est de les publier. Mmh. En gros, l'activité du scientifique, c'est aussi de publier, donc de porter à la connaissance, à la fois de ses confrères, mais de façon plus générale, c'est à disposition de tout le monde, donc à disposition des décideurs. Alors ça, c'est une chose. Et ensuite, le passage l'intégration de cette information de nature scientifique par le citoyen et par les décideurs. Là, effectivement, les sciences sociales ont un rôle fondamental. Moi, je travaille notamment sur des thèmes comme la biodiversité, etc. C'est un domaine, on va dire, l'écologie au sens large. Étant entendu, quand je parle d'écologie, c'est au sens propre du terme scientifique, c'est-à-dire c'est l'étude des relations des organismes vivants entre eux et avec leur environnement. Maintenant, quand on parle d'écologie, si on me dit « Ah oui, toi, t'es écolo », on va penser que je suis militant à tel ou tel parti. Pourquoi pas ? Mais je dis non, mon métier de scientifique, c'est de travailler en écologie. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de dogmatisme, en fait. Moi, je travaille sur les espèces introduites. Il y a des gens qui vont dire, mais une espèce introduite, en particulier en milieu insulaire, on dit, elle est introduite, donc il faut l'éliminer. Un scientifique va dire, oui, effectivement, mais il faut d'abord s'interroger sur l'impact qu'elle a. Si on l'élimine, parce qu'une fois qu'elle est là, elle est là. Si on l'élimine, est-ce qu'il y a des risques d'avoir des effets en cascade qu'on n'a pas anticipé, etc. C'est-à-dire que c'est tout sauf une position dogmatique. Et c'est vrai que dans différents comités auxquels j'ai pu participer ces dernières années, on voyait cette opposition entre des positions de principe, je dirais, et une position plus scientifique qui dit on pèse le pour, le contre, et on examine. Alors après, le reproche qu'on nous fait, c'est que, mais vous, les scientifiques, si on vous demande est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non, vous allez répondre, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ouais, alors moi ça me va bien parce que je suis d'origine normande, donc peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça me convient tout à fait. Parce que est-ce que c'est noir ou blanc ? Ben, c'est souvent plutôt une nuance de gris, quoi. Mmh. Et donc il faut vraiment lutter contre ce que j'appelle le dogmatisme, ouais. des idées a priori.
Il y a peut-être aussi un autre facteur aussi qui rentre en ligne de compte dans ces difficultés-là, c'est le rapport au temps. Peut-être que quelque chose qui demande peut-être 20 ans d'observation, quand j'ai 20 ou 30, oui. Et puis l'attente d'une réponse immédiate.
Ah, exactement. Alors là, vous ne croyez pas si bien dire, parce que alors c'est un problème constant. Pour illustrer ça, il y a 3 ou 4 ans, j'étais à un colloque de l'Union internationale pour la conservation de la nature à Orléans, qui réunissait des chercheurs, des scientifiques et des gestionnaires de réserves, de parcs naturels, etc. Et en fait, alors c'est exactement ça. Je travaille dans les îles, je travaille dans une réserve naturelle avec des gestionnaires avec lesquels j'ai de très bonnes relations, mais on n'a pas le même pas de temps.
Ben
c'est-à-dire que justement, par rapport à est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est noir, moi je vais dire, là, si c'est un sujet que je n'ai pas travaillé, je vais dire, écoute, on peut regarder... étudier ça pendant 2-3 ans et puis on en reparle dans 2 ou 3 ans et le collègue gestionnaire me répond, Marc, je te connais comme scientifique, dans 3 ans tu vas me dire qu'il faut que tu fasses encore 10 ans d'études pour avoir une réponse catégorique. Il n'a pas tout à fait tort, mais c'est simplement que lui, on lui demande un rapport annuel des actions qu'il peut mener, et donc là on peut avoir un hiatus. Alors on trouve ça à cette échelle-là, et à une échelle plus large, et ça rejoint les questions sur le changement climatique ou sur les espèces introduites. Typiquement, on va dire à Kerguelen, qu'est-ce que tu viens nous parler d'espèces introduites, puisque de toute façon, c'est une île dont tu viens d'expliquer qu'elle est d'origine volcanique, elle est sortie comme ça de l'océan, donc il a bien fallu qu'il y ait une colonisation. Les espèces, elles arrivent de l'extérieur. Oui, mais à quelle échelle de temps ? Je citerai juste un exemple, si j'ai un petit moment. Des collègues sud-africains ont travaillé sur une île sensiblement équivalente perdue au milieu de l'Atlantique, dont on connaît très bien l'âge géologique. On sait ce qu'il y a avant l'arrivée de l'homme, en plantes, en invertébrés. On connaît très bien la date de découverte et la fréquentation de l'île après la découverte par l'homme il y a quelques siècles. Ils ont montré à la louche, hein, mais c'est juste pour situer l'ordre de grandeur, que considérant l'âge géologique de l'île, mettons les plantes qu'on peut observer, les plantes d'origine qu'on peut observer, on va dire que, voilà, bon an, mal an, on va dire qu'il y a une installation qui a marché, donc une espèce qui est arrivée, qui s'est installée, tous les 1000 à 10 000 ans, vous voyez, l'ordre de grandeur. Mm-hmm. Sachant qu'une espèce peut arriver, s'installer, diverger, ça en donne deux, etc. Et alors maintenant, on regarde la liste des espèces introduites. Et là, on n'est plus du tout sur la même échelle de temps, parce qu'on dit, bon, alors je n'ai plus les chiffres, mais mettons sur 200 ans, il y a eu tant de bateaux, etc., et ça fait une nouvelle espèce, donc arrivée en relation avec les activités humaines, tous les trois bateaux, peu près tous les ans et demi. Donc vous voyez que, quand je dis entre 1000 et 10 000 selon les hypothèses, c'est juste pour si ça fait un facteur important, mais quand on passe de 1000 ans à tous les deux ans, on n'est plus du tout, et c'est pareil pour le climat. Mm-hmm. On sait qu'il y a eu des périodes glaciaires, des périodes interglaciaires, etc. Mm-hmm. Là, ce qu'on observe actuellement, c'est on termine un été qui a été particulièrement remarquable à cet égard. Quoi.
Mm-hmm. Ouais.
Merci. Je rebondis pour savoir un petit peu plus votre actualité. Est-ce qu'il y a des choses particulières en ce moment ?
Alors, l'actualité... Dans mon travail, il n'y a rien qui change la face du monde, mais ce n'était pas l'objectif. Non, je dirais que ce qu'on voit, on a la chance, grâce au soutien de l'Institut Polaire, de pouvoir travailler sur ces îles avec deux gros avantages. On peut travailler, on va mettre en place un dispositif d'étude, planter un piquet ici, un piquet à 30 mètres, et tous les ans on va passer pour regarder la végétation, comment elle évolue. On le fait ça, hein, concrètement. Et il n'y a pas de conflit d'usage. Moi j'ai travaillé sur les Landes ici, on avait des suivis comme ça, et puis au bout de 5 ans ou de 7 ans, pouf, il y avait une route qui passait, ou on change, etc. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'Institut Polaire nous permet de faire ce type d'observation chaque année, où on lui dit, vous verrez, dans 20 ans, ce sera super intéressant. Un scientifique, il ne peut pas simplement défendre son travail en disant, dans 20 ans, ce sera super intéressant. Parce que d'une part, on ne sait pas vraiment si ce sera super intéressant. Néanmoins, l'Institut Polaire nous permet de faire ça. En parallèle, bien sûr, parce que le scientifique, il est là aussi pour publier, c'est-à-dire pour valoriser ses travaux. En parallèle, on mène des études qui vont se dérouler sur un an, deux ans, trois ans, ce qui nous permet de sortir des papiers. Et donc là, on voit, pourquoi je dis ça, c'est que sur les séries longues de données, là, je pense à un exemple d'un collègue du muséum avec qui on travaille et qui fait ses suivis de végétation, on a maintenant près de 30 ans de données et... Clairement, moi ça m'est arrivé en colloque scientifique de présenter ça avec des caches en disant, ben voilà, nous on étudie ça, puis je montre les 5 premières années. Et puis je décache un peu, je dis, ben voilà ce qu'on a observé sur 10 ans. Et après je dis, voilà ce qu'on a observé sur 20 ans. Et l'information est évidemment tronquée si on regarde à 5 ou à 10, mm-hmm. alors qu'on a des données sur 5 ans. Et ça, c'est pas de l'actualité, parce que justement c'est du long terme, mais c'est quand même des éléments importants qui nous permettent de voir des fois des événements récents. Je pense à quelques espèces de plantes, par exemple, qui actuellement sont en train d'exploser. On le sait parce que justement on les voit arriver. Alors quelquefois elle était présente et tout d'un coup elle explose. Donc c'est plutôt des contributions très modestes comme celle-ci.
Et pour les personnes qui voudraient continuer ces conversations avec vous, où est-ce qu'elles peuvent vous retrouver là sur le site à Pimpon pendant ces deux jours de la fête de la science?
Trop tard,
ça y est, on ne peut plus vous trouver, mince.
Non, je suis là, mais je ne peux pas être présenté le week-end. Et j'ai fait une petite conf ce matin. Et je suis intervenu aussi en début de semaine auprès d'école de primaire à Saint-Urial. Ça, c'est le même esprit de savoir discuter avec présenter nos travaux à des publics de nature et d'âge très différents.
Donc on peut peut-être leur dire que régulièrement vous intervenez. Absolument, aussi sur différents événements.
Voilà, ça ne durera pas parce que j'arrive à un âge où...
Donc allez-y vite.
Je suis déjà intervenu une fois ou deux sur votre radio et c'est toujours avec beaucoup de plaisir.
Il y a un site internet, Marc Le Bouvier, hein, vous pouvez faire la recherche sur Google ou un autre moteur de recherche d'ailleurs, et vous tomberez donc sur une page avec de très belles photos pour commencer, et puis une explication un peu de votre action et de votre rôle justement de scientifique, de chercheur, on peut dire.
Absolument.
Voilà, en tout cas, c'est sûr que la recherche, c'est pas quelque chose qui va rentrer en bourse bientôt, parce que c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est sur du très 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 très, très long terme. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous parler à l'antenne de Timbre FM. On va continuer cet après-midi avec d'autres intervenants. On espère que vous ferez d'autres rencontres cet après-midi.
Certainement, merci beaucoup. C'est merci. Toujours un plaisir.
Merci.